7h, 9h, la matinale de Nova. Avec Marie Bonisseau et Queenie Tassel pour que tu rêves encore, 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 encore. Nova.
Je suis dans une bibliothèque. Je veux lire L'Attrape-cœur. Et je trouve pas ce livre-là. À un moment donné, je me rends compte que les livres que je regarde, ils changent de couverture. Il n'y a plus la même chose qui est écrite, c'est plus la même image. Là, je me pose, je me dis, mais alors ça veut dire que je rêve en fait. Bah du coup, L'Attrape-cœur, je peux le trouver comme je veux. Je vais ouvrir le tiroir, il va y avoir L'Attrape-cœur dedans. Et c'est la première fois que j'ai contrôlé un rêve.
Nova.
Après, quand je me suis réveillée, je me suis dit, faudrait pas que je contrôle tous mes rêves, parce qu'après, je sais pas si je vais être saoulée de faire des rêves.
Pour que tu rêves encore.
C'est hyper vrai ce qu'elle vient de dire. Mmh. Rêvez avec parcimonie, chers amis. Laissez-en pour les autres nuits.
Mais c'est pas illimité, les rêves ?
Non, c'est 8 rêves par personne et par nuit.
Ah bah j'ai plus de crédit, moi, tiens.
Bah, je vous en prêterai. Vous dormez encore ? Pourquoi on parle de rêves, là, Queenie ?
Je sais pas, moi.
Faut qu'on fasse une émission.
Il est quelle heure ?
Il est 7h02.
Oh bah ça va !
Oui, ça va, on n'est pas à la bombe, mais j'aimerais bien commencer parce que j'ai un gros disque de funk pour le réveil, là. J'ai une guitare qui fait. J'ai très envie de la mettre.
Ok.
Voilà.
Bah dites bonjour quand même, Marie, d'abord.
Pardon. Bonjour à tous. À tous. Bonjour à toutes, à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, perso, je ne comprends plus rien. C'est quoi l'ambiance de ce coronavirus ? Je la comprends pas, cette nouvelle atmosphère. Ça fait des semaines qu'on me dit que le monde se vide. Je vois les salariés télétravailler, les ministres sécher leurs conseils, les gosses, ils ont plus ping-pong, les concerts sont reportés à l'été 2024, ma grand-mère plus le droit de sortir, le nouveau James Bond, il est pas sorti non plus, l'Italie c'est le désert, et dans le bus hier, il y avait moi et le chauffeur qui portait un Tupperware sur la tête.
Non.
Bref, où sont les femmes, les hommes, les hamsters ? Réponse, chez eux. Ou à la supérette en train de se mettre des savates pour pécho le dernier paquet de pâtes marque pouce, parce qu'il n'y a plus que ça. Je commençais à m'y habituer à cette solitude quand hier soir, j'entends ça. C'était fort. Allez Paris, dans 6000 bouches, 3000 selon la police, parce que ça change pas. Les supporters du PSG, hier soir, en train de vivre leur meilleur match de l'année, leur meilleure vie, à base de fumis, non pas au Parc des Princes, mais à la porte du Parc des Princes. Le match étant à huis clos hier soir, ils se sont juste décalés de 100 mètres. Et à la fin du match, et bah, ce sont les joueurs du PSG qui ont fait coucou depuis les tribunes aux ultras qui étaient, eux, sur le bitume. Bref, le monde complètement à l'envers. Et ça marche.
Et
le
ouais.
PSG a, pour la première fois depuis 4 ans, passé l'étape des 8e de finale de Ligue des Champions. Alors, quelles leçons on retient de cette histoire qui n'intéresse que les Parisiens pour le moment ? Et bien, bah, qu'il faut y aller, en fait, au concert annulé. Il faut y aller chez votre grand-mère qui est confinée. Il faut y aller au Conseil des ministres. Mais il suffit de rester dehors, de derrière la porte. En fait, on se décale juste de quelques mètres et on continue à vivre. Queenie,
je me décale.
Oui,
c'est
décalez-vous.
Ça
allez-y. Non, un peu plus loin.
Hein?
Mettez-vous vraiment derrière la porte.
Là, je fais
sortez du studio. Voilà.
Allez, l'émission.
Vous voyez, ça fonctionne.
Nova.
Aujourd'hui.
Oui.
Aujourd'hui, c'est un anniversaire.
Joyeux anniversaire.
Non, mais c'était un anniversaire d'il y a longtemps. C'est les 90 ans du début de ce qu'on a appelé la marche du sel de Gandhi. Alors, c'était quoi la marche du sel de Gandhi en Inde ? C'était une manifestation non violente pour protester à l'époque contre l'augmentation de l'impôt du sel et plus largement pour protester contre la colonisation britannique en Inde. Mmh. Alors, Gandhi et les gens qui l'ont suivi, ils ont marché pendant 380 kilomètres. Et à la fin de cette marche, Gandhi, il est arrivé devant la mer où il a recueilli symboliquement du sel. Il s'est fait arrêter et il a passé 9 mois en prison.
Pour avoir pécho du sel, c'est fou quand même.
Ouais. C'était il y a 90 ans qu'on y est.
Je suis scandalisée.
Gardez votre colère. Est-ce qu'on a un morceau non violent alors pour fêter cet anniversaire ?
C'est un morceau de disco indien qui date des années 80 et qui est signé Rupa. Rupa, elle est indienne, elle chante et elle a sorti qu'un seul album en 1982. Cet album, il s'appelle Disco Jazz et il est enregistré à l'époque au Canada. Et il est produit par une horde de producteurs canadiens et une horde de producteurs indiens. Et ça fait un son assez fou parce que ça fait un son moitié occidental, moitié oriental.
Ouais.
Pour les années 80, c'était assez ouf. Et elle a créé donc un super album qui pourtant a disparu et a fini dans un grenier à prendre la poussière, donc son propre grenier. En 2014, la fille de Rupa découvre avec Stupeur, donc cet album, dans le grenier. La pochette, elle est orange avec une photo de sa mère jeune qui tient un micro en souriant. Elle fait même pas semblant de chanter, c'est vraiment juste pour montrer je suis chanteuse.
Ouais.
Et voilà. Et du coup, elle découvre ça dans le.
Du coup, en fait, sa fille a découvert comme ça que sa mère était chanteuse en voyant
l'album. Elle lui en parle, elle lui dit ah, mais maman, c'est quoi ça? Et sa mère, elle dit jette-moi ce CD à la poubelle.
Oh, petit chat.
Et sa fille fait un geste assez dingue. Attention, elle ne jette pas le CD, elle va googler le nom de l'album et elle découvre que le vinyle, le 45 tours d'un de ses morceaux, qui s'appelle Age Shanibar, il vaut une blinde sur Internet.
Ah, bah oui,
Mais voilà.
Il avait disparu.
Oui, il avait disparu, mais. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi déjà un prix, Marie, pour le single.
Pour un single de disco indienne de 1982,
oui.
Bah, je sais pas, 100 euros s'il est bien.
Le moins cher, il est à 440 euros.
Okay.
Et ça tourne plutôt autour de 600-700 euros,
okay.
Le vinyle.
Là, on va écouter un truc très cher alors.
Et oui, voilà. Alors, en fait, il s'avère, je vous explique pourquoi il était si cher. Il s'avère que quelqu'un avait posté sur YouTube, quelqu'un qui avait le CD, et qu'en fait, l'algorithme de suggestion YouTube l'a recommandé à plein de monde.
Ah.
Mais on ne sait pas pourquoi, c'est un mystère cet algorithme, on ne sait jamais ce qui se passe. Mais du coup, il y a des milliers de vues et en fait, il y a eu des DJ qui le passaient dans leur set, comme Fortet et Caribou.
Ok, donc tout le monde le voulait.
Exactement.
Bon, on a 440 euros là, chers amis.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on en fait?
On va les dépenser.
C'est parti.
C'est Age Shanibar sur Nova et c'est un bon réveil pour tous mes petits Gandhi.
Cher auditeur qui s'appelle Paul, vous allez bien?
Bonjour, ouais, super, je suis trop content d'être là.
Bah, vous êtes chez vous, hein, c'est juste un téléphone, Paul. Vous nous appelez d'où, de Poitiers?
Ouais, c'est ça, ouais.
Bon, bah, ça tombe très bien parce qu'on a des places à vous offrir pour un super concert qui aura lieu le 19 mars, on le disait tout à l'heure, au TAP de Poitiers. C'est un double line-up incroyable, c'est Mélissa Lavo qu'on écoute à l'instant et Blic Bassi. Voilà, alors pour gagner ces places, c'est pas si facile, il suffit pas juste d'être là, comme vous le disiez avec le sourire, Paul, il va falloir mater BFM TV ce matin, c'est notre jeu du jeudi. On a la dame de BFM TV qui a regardé un film, qui va vous le décrire à la manière de BFM TV, on est désolé. Mais c'est juste à vous de retrouver le titre. Je veux juste le titre, pas le réal, pas d'acteur, je veux juste le titre. Si vous le trouvez, vous remportez les deux places de concert. Vous êtes prêt, Paul?
Ok, je suis chaud.
Allez, premier indice.
C'est ici, à New York, que chaque année, des centaines d'étudiants tentent leur chance au prestigieux Schaeffer Conservatory. Cette école de musique, réputée pour son excellence, n'a pourtant jamais...
Ah, oula. On a zappé sur LCI.
J'ai pas d'idée là.
Pas d'idée. Un conservatoire non. À New York.
Chauffeur conservatory.
Je se fous la gueule de la dame de BFM. Eh ben, c'est pas grave. Paul, il y a un deuxième indice. Écoutez bien.
Okay.
Levé à l'aube et couché après minuit, le jeune Andrew ne ménage pas sa peine. Ce fondu de jazz rythmique a accepté de nous ouvrir les portes du cours le plus réputé de son cursus. Un brass band dirigé de main de fer par Terence Fletcher.
Whiplash.
Oui, se calme. Wow. On vérifie. Petit Paul, bravo, félicitations. Vous l'avez kiffé ce film ? Moi je l'ai détesté, j'avais envie de le dire.
Ah, je crois, là, j'adorais.
Ah ouais, vous aimez bien le harcèlement moral, les profs qui font mal à base de
la sueur,
non,
à base
de cymbales. J'aime les crânes rasés.
Voilà, un petit dérapage du matin, Paul. Bon, félicitations, on va vous emmener pas du tout voir des crânes rasés, mais Mélissa Lavo et Blic Bassi en concert à Poitiers. J'espère que le concert sera super et je n'en doute pas.
Parce que c'est super, merci
qu'on
beaucoup.
Adore sur Nova. Salut Paul.
Salut.
Très
salut,
bon jeudi.
Salut les deux.
Ciao.
Nova, pour que tu rêves encore.
Il est 8h06, merci de vous réveiller avec nous, vous avez choisi la bonne radio et j'espère que ce matin, ce jeudi, vous avez le ventre totalement vide parce qu'on va vous le remplir avec un monument de la gastronomie française qui a bouleversé la vie de beaucoup d'entre nous.
Moi, la toute première fois, c'était en 2006-2007 environ, je me souviens plus très bien.
Dès qu'il est arrivé, tu dis bon bah, écoute, je t'emmène à un endroit, si t'arrives à le terminer, je t'en paye un autre quand tu veux pendant la semaine.
Et un jour, il y a un pote à moi qui s'appelle Noaman. Je lui dois pas mal de choses. Et c'est lui qui m'a parlé du tacos pour la première fois.
Le tacos, ça y est, le mot est lâché, le French tacos, attention, rien à voir avec le taco mexicain. Mmh. Un monstre, le French tacos, mi-kebab, mi-panini, avec 3 viandes si on veut, des litres de sauce fromagère, ça c'est obligatoire. C'est le menu de ce matin sur Nova, et pour le déguster, un spécialiste du tacos, Bastien Jans, bonjour.
Bonjour.
Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher, c'est comme un tacos, ça c'est vraiment, c'est un micro qu'il faut bien prendre en bouche. Bastien Jans, je dis spécialiste du tacos parce que quand même, vous avez une obsession tacos, vous avez passé 5 ans.
Ouais, même plus que ça en fait. Si on remonte loin, ça devient même gênant. Je pense que c'est plus
10 ans. Depuis l'enfance, 10 ans à enquêter. Non mais c'est
non,
vrai,
10 ans à enquêter,
histoire.
Non, mais 10 ans à manger.
10 ans à manger, 5 ans à enquêter sur le French tacos. Ça donne un documentaire qui est très cool, qui est en 3 parties, qui est sur YouTube, qui s'appelle Tacos Origins. Et alors on dirait une blague, mais le French tacos, c'est vraiment un phénomène culturel.
C'est un phénomène culturel, ouais, de culture populaire, de nos grands imaginaires, on va dire. Et oui, c'est quelque chose qui est apparu dans les années 2000 dans la région lyonnaise. Et puis après, qui a pris un élan de ouf à Grenoble, dans la fin des années 2000.
Alors vous dites la région lyonnaise et Grenoble, mais à chaque fois c'est les quartiers, hein, c'est des banlieues.
C'est plutôt dans les banlieues, oui. À la base, c'est né dans les petits snacks de banlieue. Et après, ça a très vite quand même intégré le monde des centres-villes de villes de province. Et ça a en fait donné un nouvel élan à la junk food, si on en avait vraiment besoin. et du coup, ça a remplacé les kebabs. En tout cas, à Grenoble et à Lyon, ça s'est complètement, voilà, je sais pas comment dire, mélangé avec le monde des kebabs.
Quoi. Et puis ensuite, c'est arrivé à Paris. Et puis ensuite, aujourd'hui, on vous voit même un moment dans le documentaire, vous allez jusqu'au Sénégal, où il y a un Sénégalais qui essaye de lancer sa chaîne.
Maintenant, il y en a même au Vietnam. Il y en a vraiment de partout dans le monde. Et ça, c'est ça qui a déclenché un peu l'envie de faire un documentaire. C'est que moi, je l'ai connu parce que je suis grenoblois.
Ouais.
Et donc, à la base, c'était un truc un peu de mon propre patrimoine, on va dire.
Et ce qui est génial, c'est qu'on voit quand même dans votre documentaire des grenoblois qui disent le tacos. Donc, on pense au Mexique, mais non, ils disent le tacos, c'est grenoblois. Il y a des embrouilles entre lyonnais et grenoblois pour savoir qui a inventé le tacos.
Alors, moi, c'est un vrai problème, c'est que ça a un peu heurté mes petites certitudes où j'étais très content de me dire que le tacos, c'était grenoblois. Et en fait, pas tant. En fait, je crois qu'il est plus lyonnais.
Bon, on va pas dire la fin de votre documentaire parce que c'est aussi quand même une enquête.
Il y a pas un enjeu énorme. En fait, l'enquête, même pour être tout à fait honnête, c'était vraiment plus un prétexte qu'autre chose.
Mais c'est une légende urbaine. Il y a plein de gens qui se demandent quel est le premier mec dans un kebab qui a eu l'idée de faire un tacos.
Et il y a plein de gens qui se posent encore. Mais bon, il y a même des médias beaucoup plus sérieux que moi qui se posent la question maintenant et qui s'inventent un peu des réponses. Mais
en tout cas, vous êtes allé.
Moi, j'ai la bonne version.
Ouais, et vous avez trouvé plein de gens qui disent moi, j'ai une bonne idée, machin. Mais ce qui est intéressant aussi quand même dans le tacos, c'est que c'est une vraie histoire. un de banlieue et deux de banlieue, de pas de Paris. Et ça, vous, c'est assez rare quand même que c'est vraiment un phénomène culturel qui est arrivé à Paris. Donc banlieue lyonnaise, grenobloise, on va pas décider maintenant, mais c'est intéressant parce que vous racontez aussi quand même une success story de mecs de banlieue qui ont kiffé les tacos et qui en ont fait des chaînes comme Otacos, notamment, que vous avez pas pu avoir parce qu'il reste très secret, mais qui a un peu conquis le monde, quoi.
Qui a tout à fait conquis le monde. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont complètement milliardaires, les mecs. En fait, à la base, c'était des Grenoblois, ouais, tout à fait. C'était des gens qui venaient du quartier dans lequel il y avait mon lycée. Moi, je suis pas issu de quartier, mais mon lycée était dans ces quartiers-là. Et c'est des mecs qui ont mangé des tacos comme moi, à peu près à la même époque, et qui se sont dit, en fait, déjà qui se sont rendus compte que ça n'existait pas ailleurs qu'à Grenoble, et qui se sont dit, bah, c'est l'occasion de créer un empire.
Ouais, et ça a marché.
Ils ont créé un empire, ouais, pendant 10 ans.
Nova.
Et en vrai, le matin, c'est trop tôt.
Pour que tu rêves encore.
C'est tout.
Bambina, bambina, bambina. Y'a rien de magique, tu sais, ma vie, ça me joue pas drôle. Et bambina, bambina, bambina. Baila, 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 noir et la rose. Opé, opé, j'vendais le coco, j'graillais le tacos. Ombre, ombre, j'fais le tour du monde, même en tacos.
Oui, on n'est pas bio ce matin, c'est fini les tartines au chia, c'est Tacos avec PNL et tous ceux qui l'ont chanté. Tacos, ce monstre, hein, je crois qu'on peut le qualifier comme ça, ce monstre de nourriture.
Ce monstre calorique, ouais.
Ce monstre calorique. Brique. On est toujours avec vous, Bastien Jans, qui avait enquêté, donc on le disait, 5 ans sur l'origine du tacos, une invention française. Pourtant, sur tous les kebabs et sur tous les vendeurs de tacos, il y a encore des petits cactus, il y a encore des petits chapeaux mexicains, parce qu'ils font encore comme si ça avait été...
Mais rien à voir. Non, absolument rien à voir. Enfin, rien à voir. À la base, s'ils ont appelé ça le tacos, c'est que je pense que vraiment c'était une référence au taco mexicain.
Ouais.
Mais c'était plus vraiment de l'appropriation culturelle vraiment sauvage.
Et de la déformation culturelle.
Et de la déformation.
Est-ce que vous savez s'il
y a vraiment de la déformation culturelle?
Est-ce que vous savez s'il y a des Mexicains qui ont déjà goûté les French tacos?
Alors oui. Enfin, moi je sais pas, mais en tout cas, on m'a rapporté que apparemment des Mexicains étaient venus aux tacos de Lyon de Grenoble.
Ouais.
Et qu'ils avaient adoré et que c'était exceptionnel. Mais je suppose que c'est
encore une légende urbaine.
Oui. Mais tout n'est que légende urbaine en fait dans ce truc-là.
Et c'est ça qui est génial dans votre documentaire Tacos Origins qu'on retrouve sur YouTube, c'est qu'il y a beaucoup de légendes urbaines et que vous avez pris au sérieux ces légendes urbaines. Il n'empêche que ça fait partie aussi du mythe de banlieue qui se raconte et qui vivent le tacos comme une fierté.
C'est ça qui m'intéressait en fait, c'est que je trouve qu'avec avec un sandwich et une recette assez banale, en fait, il y a le même storytelling qui s'est construit comme avec le foot ou avec le rap. Très vite, en fait, la banlieue arrive à construire des imaginaires qui sont hyper forts. Et ce qui m'amusait beaucoup, c'était le fait que ça soit existant aussi avec un sandwich, quoi.
Et vous arrivez même à nous émouvoir avec un sandwich, parce que moi, j'ai regardé tout le documentaire hier. Bon, ça m'a fait commander un tacos, mais ça, c'est personnel.
Bien sûr.
Mais aussi, on rencontre, vous êtes allé interviewer plein de mecs, plein de patrons de kebab. Enfin, je dis kebab, mais en fait, c'est plein de patrons de tacos.
C'est des tacos,
Et c'est un peu la... C'était la première fois, moi, dans un documentaire, que je voyais autant de patrons raconter comme ça l'amour qu'ils portaient à leurs recettes, parce qu'ils ont chacun une fierté sur qui met de la chachouka, qui bosse les frites. Il y a une fierté et ils revendiquent une gastronomie du tacos.
Ouais, c'était le point central de mon travail, c'était de faire des rencontres qui ont toujours été hyper cool et j'ai toujours été très très bien accueilli.
Ouais.
Au début, il y a toujours une méfiance où on me dit t'es un journaliste de TF1 et qu'est-ce que tu veux.
Ouais.
Et après, on se rend compte que non, et qu'en fait je suis là juste pour m'intéresser à leur travail. Ils ont tous été vraiment hyper hyper sympas.
Bon, il y a un gérant de tacos que vous avez pas, j'aimerais vous faire un blind test de tacossier, je sais pas si ça existe. Je vais vous le faire écouter, vous allez deviner qui c'est.
Non mais vraiment, parce qu'en fait t'as vu, j'avais ce truc là, je regardais les films, tu regardes les films de gangsters où ils ont toujours un restaurant, il y a l'arrière-cuisine, ils sont là, ils goûtent un peu la sauce, le truc et tout, tu vois ce que je veux dire. T'es dans un truc un peu parrain, genre t'es là, tu rentres dans la cuisine, tu manges ton petit nuggets, tu sors, je kiffe. Je vais pas mentir, mais c'est un petit kiff.
Voilà, un petit kiff de gérant de tacos, c'est qui?
Bah c'est Mokobé.
Bah on l'avait deviné tout de suite. Mais ouais, Mokobé, ancien du 113, qui a ouvert une chaîne de tacos.
Ouais, tacos check, tout à fait.
C'est hyper lié, le rap MHD aussi, on l'a vu bosser dans un tacos, et ça avait fait une émeute dans un tacos.
Bosser, il avait fait une intervention pour l'ouverture d'un tacos.
Oui.
Mais c'est un peu le même univers. En fait, c'est Otacos qui a vraiment réussi ça, de matcher ces univers-là. parce qu'ils ont fait un travail sur les réseaux sociaux qui est ouf, en fait, et c'est ça qui a fait leur succès.
Parce qu'à la base, ils n'avaient pas de moyens, en fait, d'embaucher de la com, et du coup, ils se sont mis sur Snapchat, et c'est comme ça que ça
exactement,
a marché.
Ouais. Sur Facebook, à la base, je pense que ça doit être le dernier succès de Facebook, je pense,
les tacos.
Et oui, à la base, c'est deux ou trois mecs qui sont allés ouvrir un restaurant à Bordeaux et qu'on réussit à créer ce storytelling en fait autour de leur concept.
Qui fait du tacos, voilà. Le fait qu'on fait des fois il y a des gens qui font des duck face, il y a des gens qui se prennent avec des tacos. Maintenant, c'est devenu une sorte de pause sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Bastien Jans.
Merci à vous. Nova,
pour que tu rêves encore. On passe tout de suite à Ezekiel Payès qui habite le Marie Transport cette semaine. Mmh. Ezekiel Payès qui vient de sortir un nouveau single. Ce n'est rien de nouveau, mais si toute existence fut déjà notre esprit, s'abuse étrangement pour la seconde fois. C'est bien, hein?
Ouais, c'est trop bien.
Ça s'appelle Bien Certain, ça va faire partie de son troisième album solo qui s'appellera lui Oh!
Point d'exclamation!
Ouais, et ça va sortir en avril. On en profite pour écouter Ezekiel dans un transport avec Marie.
Vous allez où?
Service d'accompagnement de personnalité au travail.
Je peux m'asseoir à côté de vous?
Marie Transport, épisode final.
On arrive.
Voltaire.
Avec Ezekiel Payès qui me parle. Pas vraiment de son troisième album, d'ailleurs je lui en fais pas beaucoup parler, qui s'appelle Oh, que j'ai envie de prononcer genre plutôt je sais pas comment les gens disent, ils disent Oh
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 Oh, oh. Ah ouais, c'est vrai que ça pourrait être aussi Oh
Oh. Je me suis demandé si t'avais eu de la timidité avant de te lancer vraiment dans de la chanson française qui peut, vu le milieu de musiciens d'où tu viens et même la musique d'où tu viens avec Nose et tout, je sais pas, qui peut être regardé sans envie ou sans admiration, je sais pas.
Bah oui, moi en fait j'avais vachement envie d'écrire d'autres chansons, effectivement, d'en écrire plusieurs.
On traverse.
Et puis de chanter surtout, parce que sur les autres albums, parfois j'avais fait des chansons, mais souvent j'avais un peu du mal à chanter juste avec ma voix, tout seul, ou des choses comme ça.
Et mais est-ce que, ou pas du tout, il y a eu un petit temps pour assumer cette envie, ou pas?
Ouais. Là, c'est même
là, pas c'est bon.
Ouais ou non, quoi. C'est...
là, je tiens une vraie information. Et t'as pris des cours de chant, ou tu chantes comme ça, à la base?
J'ai pris des cours de chant, mais alors... Mais j'ai jamais pris de cours de... Enfin...
Tu te fous de ma gueule.
Non.
Où est-ce qu'on va maintenant?
Oh, on n'est pas très loin, hein. C'est la prochaine à droite.
Sous la pluie.
T'as une famille de musiciens ou pas? Je sais pas du tout. J'ai fait des recherches sur toi, mais l'internet est très peu bavard.
Non, enfin chez moi, on écoutait de la musique. Mmh. On faisait un peu de musique, mais on n'était pas dans la musique, quoi.
Parce que t'as quand même fait une école, quoi. Enfin, t'as fait t'as un diplôme.
Oui, j'ai fait, après, comme plein d'autres musiciens, mais...
Non, mais ça veut dire qu'à un moment, t'envisages ça assez jeune comme une carrière possible et légitime.
Oui, c'est, en fait, assez jeune, je suis tombé vraiment à... Enfin, j'avais vraiment envie de faire du piano. Bon, j'écoutais beaucoup de jazz à l'époque, et de classique aussi, mais beaucoup de piano. Et puis, à l'école, j'ai eu un prof qui, évidemment, m'a fait me rendre compte à quel point ça pouvait être magique de jouer d'un instrument. Je voulais faire plutôt du jazz, puis après, on m'a dit, mais fais quand même du classique. Et en fait, je suis tombé aussi amoureux de la musique classique que du jazz. Et puis, c'est vachement bien parce que c'est... Si tu bosses, si tu apprends, enfin en apprenant, tu te sens de plus en plus libre de faire de la musique. Donc c'est assez génial. La chronique
textile. Et c'est pour s'habiller chaudement, on parle tricot ce matin avec vous, Ivan Jacob. Le tricot, ça revient. La marque Karl Lagerfeld a fait gagner, c'était il y a quelques jours, un kit de tricot sur Internet. Alors, c'était une collab Karl Lagerfeld avec la Woolmark Company, qui est un peu le lobby du tricot mondial, on peut dire ça. Et dans ce kit, il y avait de quoi faire un pull, une écharpe ou un bonnet, qui avait été dessiné par feu Karl Lagerfeld, qui nous a quittés il y a un an. Et bizarrement, ce kit tricot a mis la communauté tricot mondiale à feu et à sang.
Et oui, Marie, ça a commencé par un petit commentaire sur le compte Instagram de la marque Karl Lagerfeld,
pourquoi faites-vous la promotion d'un homme qui était grossophobe, islamophobe, raciste et opposé au mouvement MeToo ? Alors un commentaire un petit peu tout seul au début et puis il en est venu plein d'autres. C'est pourtant pas la première fois que le Kaiser entraîne une polémique car il n'était pas très woke. Karl, vous savez, woke ça veut dire être conscient des injustices qui pèsent sur les minorités. Il avait par exemple affublé Claudia Schiffer d'une blackface pour un shooting photo en 2010.
Yes.
Défendu un styliste accusé d'attouchement en expliquant en gros, si vous voulez pas finir à poil, ne devenez pas mannequin. Et commenté de manière un peu douteuse la politique migratoire d'Angela Merkel. Tout ça, c'est entre autres. Tout ça avait un peu été mis sous le tapis après son décès, mais là, cette fois-ci, il n'y avait a priori rien d'offensant dans les boîtes. Et pourtant, pour beaucoup de membres de la communauté tricot, eh ben, ça a été la goutte d'eau. Jacqueline Sislak, une prof de tricot très suivie sur Instagram, n'a pas trop apprécié le projet. Okay. Elle a notamment jugé le kit excluant parce qu'il ne prévoit pas assez de laine pour les tailles extra larges.
Mais si ça a pris l'importance, c'est parce qu'en fait, il y a un vrai débat sur l'inclusion au sein de la communauté du tricotage.
Et oui, on ne l'avait pas vraiment vu monter, cette colère.
C'est vrai.
Et pourtant, l'année 2019 a été chargée pour la commu tricot. Ça a commencé en janvier avec un long billet d'une blogueuse à propos d'un voyage en Inde qu'elle a comparé à un voyage sur Mars. Ça a été très mal pris et plusieurs de ses followers ont critiqué son esprit colonialiste. À partir de là, les voix des minorités du tricot ont commencé à s'élever.
Donc des gens ont raconté des cas de harcèlement dans la communauté du tricot.
Ouais, exactement. C'est vrai que c'est un peu moins drôle. Une tricoteuse bisexuelle, par exemple, a reçu des menaces de mort après avoir annoncé qu'elle dirigerait un atelier de tricot sur un salon textile. Des tricoteurs d'origine asiatique ont raconté les insultes racistes qu'ils ont affrontées sur ces mêmes salons. Au mois de juin, le site Ravelry, c'est la principale plateforme en ligne des tricoteurs et des fans de crochet, a décidé d'agir en bannissant toute manifestation de soutien à Trump. Leur texte dit « Nous ne pouvons pas fournir un espace qui est inclusif et qui autorise en même temps le soutien aux suprémacistes blancs. »
Mais on trouvait quoi comme soutien concrètement ?
Bah, des tricoteurs échangeaient par exemple des patrons de bonnets ou d'écharpes tricotés d'un Trump 2020,
ouais.
Avec les mots Trump 2020. Alors Ravelry, il a aussi bloqué toutes les discussions à propos de Karl Lagerfeld sur ses forums en expliquant que ses valeurs de Lagerfeld ne correspondaient pas à celles du site. Knit Imag, c'est une publication influente dans le milieu, a apporté son soutien. Les influenceurs Knit qui ont reçu la box en cadeau ont dû publier des textes sur les réseaux sociaux pour justifier leur décision de promouvoir le projet.
Ouais.
Et le magazine Vogue Knitting a lui carrément supprimé son post sur Instagram.
Et depuis, il y a une nouvelle affaire.
Et oui, c'est la dernière en date. Une Américaine qui teint et vend des pelotes via Instagram a lancé une collection de fils qu'elle a appelée polarisée. En fait, elle a donné à ses produits des mots issus, selon elle, du jargon Social Justice Warrior. C'est ses propres mots. Les Social Justice Warrior, Marie, c'est le nom ironique donné aux militants des droits des minorités, généralement par la droite ou l'extrême droite. Et parmi les noms donnés à ces pelotes, il y avait par exemple micro-agression, problématique ou woke, des termes qui sont apparus avec le combat des minorités, un peu comme mansplainer par exemple, vous voyez.
Et donc ça, c'était le nom des fils
ouais, le nom de tricot. Pelotes
donc c'était pour se foutre de la gueule
exactement,
de tous ceux qui parlent de woke et de micro-agression.
Et ça, ça effectivement polariser le débat entre commentaires de soutien et commentaires de colère entre les deux franges de la communauté. Des gens qui ont par exemple pour pseudo Bitchy Knitter, donc le tricoteur un peu
bitchy,
bitchy et Knit Fragility ou Rider Fiber. Les uns ont appelé au boycott éternel de la vendeuse de pelotes, les autres ont moqué, je cite, les hypersensibles pleurnichards gauchistes et ils réclament Make the Knitting Great Again, une référence bien sûr au slogan de Trump en 2016.
Ah oui, c'est si très tendu,
tendu
ouais.
C'est si tendu, Marie, que les gens qui témoignent dans les articles de presse ne veulent pas donner leur nom de famille ou changent leur nom pour ne pas être reconnus par peur des représailles sur les réseaux sociaux du tricot.
D'accord, mais ça a servi à déclencher des actions quand
même. C'est le seul point positif. 180 petites entreprises du secteur ont levé de l'argent pour des causes caritatives progressistes et d'autres se sont engagées à mettre en lumière le travail des Noirs, des indigènes et des gens de couleur dans l'art textile.
Parce qu'en fait, le tricot, ça reste quand même un monde très blanc.
Oui, alors que pourtant, c'est un art universel au départ. Mais plusieurs tricoteurs de couleur ont partagé leur expérience. Ils sont souvent mal accueillis dans les boutiques de vente où on vend des fils ou invisibilisés sur les réseaux sociaux. Il n'y a jamais ou quasiment jamais de mannequins blancs dans les magazines de tricot. Et aujourd'hui, les gens qui ne trouvent pas leur place dans ce monde, qu'ils aiment pourtant, eh bien, ils la
réclament. De mannequins noirs, non ?
Eh oui, pardon, il n'y a jamais de mannequins noirs,
ouais,
il n'y a que des mannequins
blancs
dans
les magazines,
tout à fait. Finalement, le monde du tricot, c'est un peu comme le monde de la mode, il y a un vrai manque de diversité.
Ouais.
Et plus de diversité, bah, c'est ce qui pourrait ramener le calme dans cette communauté. Rappelons tout de même que le tricotage, c'est un hobby calme à la plate, et qu'il est censé faire baisser la pression artérielle.
Wow, les haters du tricot, bah, merci pour nous avoir fait découvrir ce monde de clash et de haine. Calmez-vous les petites aiguilles. Diego, bonjour.
Bonjour Marie.
Waouh, wow, il y a Queenie aussi.
Salut.
Salut Queenie.
Il y a Ivan aussi.
Bonjour.
Ouais, voilà.
Bon, ben non, on va pas d'accord. Hein. Foutre. Diego, vous nous appelez d'où?
Oui. J'appelle de Limoges.
Très bien. Comment ça va à Limoges? Est-ce qu'il y a encore des gens dans les rues?
Bah ouais, il y en a quand même. On n'est pas trop touchés, nous, donc ça va jusque-là.
Bon, ben moi, je suis contente qu'on nous appelle d'un endroit serein.
Voilà.
Qui va vous permettre d'avoir vraiment tout votre esprit consacré au quiz de ce matin. Je rappelle que le record, il est à 13 pour gagner cette enceinte Bose offerte par Back Market. Et ce matin, Diego, pour vous, c'est le son quin. Tout commence par quin, comme quinquin, quintessence ou quinsent impur. Vous voyez?
Ah ouais, carrément.
Ouais. On n'a pas sorti la petite syllabe. Bon, on y va? 45
ouais,
secondes?
Ouais, c'est parti. C'est parti. C'est
alors, 0 plus 15.
15.
Ouais, c'est tiercé, quarté.
Quinté.
C'est Marignan.
1515.
C'est américain en verlan.
Américain passe.
Ok, c'est le nom de famille de Charles Quint.
Quinte.
C'est 5 ans de président.
Quinquennat.
C'est 5 frères du même âge.
Quintuplé.
Ok, avant Louis XVI, c'était Louis combien?
Louis XV.
C'est 15 partout au tennis, comme on dit.
15 ans.
Complétez cette phrase. Ouh, y'a quel?
Quinte.
C'est une suite au poker.
Une quinte.
C'est une suite et une couleur au poker.
Une quinte flash royale.
C'est une suite à là, c'est une... Ah non!
Ah.
Je sens que vous jouez au poker, Diego.
Quinte flush royale aussi.
Ouais, mais non, bah, ouais, mais c'était quinte flush. C'était quinte flush. Là, ça part en technique.
Ah, c'est très technique.
Ah ouais,
vous
c'est
étiez
en gros, suite au poker, c'est la quinte. Et une suite et une couleur au poker, c'était la quinte flush. Et ensuite, je vous ai sorti la quinte flush royale. Royal. On y allait tout doucement. Ouais.
Okay.
Mais vous étiez très fort, vous avez fait qu'une seule faute. C'était qu'un riz que vous n'avez pas trouvé.
Ouais, les qu'un riz, quoi.
Mais sinon, vous avez fait 10 points, Diego.
C'est bien, 10 points.
10 points.
Ouais.
Ah, je suis triste.
Bah, c'est
non,
presque 15.
Soyez pas triste.
Diego, est-ce qu'on a un limougeot particulier ou une limougeotte à qui on dédicacerait ce petit quiz ce matin? On passe un bonjour.
Eh ben, mes enfants.
Bon.
Mes enfants.
Ils sont 15? Il y en a combien?
Non, il n'y en a pas 15, il y en a que 2, c'est déjà pas mal. Hein.
C'est déjà pas
bonjour
mal, hein.
Et bonjour. C'est vrai que ça nous économise des forces. Merci beaucoup, Diego, pour votre bonne humeur.
Mais de rien, merci à vous.
Salut.
Salut.
Bisous.
Nova.